Profitez avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, vous êtes les bienvenus, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous attendons vos réactions sur la situation au Burundi. Cela fait un an que le pays est plongé dans une profonde crise politique depuis l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de se représenter à un troisième mandat. Très rapidement, vous le savez, les manifestations contre cette candidature ont été réprimées et depuis le début de la crise, plus de 500 personnes ont été tuées, plusieurs milliers ont été arrêtées et on recense plus de 270 000 Burundais exilés à l'étranger. Et jusqu'à présent, ni les sanctions européennes, ni l'ONU, ni l'Union africaine ne semblent impressionner le pouvoir burundais. En tout cas, en début de semaine, la CPI a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire sur les crimes commis depuis un an. Reste à savoir évidemment si cette décision permettra de dissuader le président Nkurunziza. Comment mettre fin aux violences? Que vous inspire la gestion de cette crise? Vos réactions évidemment nous intéressent. Vous qui êtes sur place au Burundi, appelez-nous, contactez-nous, témoignez en direct sur notre antenne. Vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Et n'oubliez pas, évidemment, les réseaux sociaux. Vous nous suivez sur Twitter et vous postez vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Je le dis régulièrement, aucune question n'est tabou. Donc surtout, n'hésitez pas. Toutes les thématiques, évidemment, nous intéressent. Nous accueillons pour commencer cette émission Djima, qui nous contacte de Cotonou, au Bénin. Bonjour Djima.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, monsieur Juan. Le pape François, lors de sa visite de solidarité aux réfugiés sur l'île grecque de Lesbos, est reparti au Vatican avec 3 familles syriennes, dont 6 mineurs. Mmh. À cet effet, je voudrais savoir par qui ont-elles été prises en charge à leur arrivée en Italie? Quel va être le statut de ces familles et comment la sélection de ces familles ont-elle été opérée?
Bonne question, effectivement. Que sont devenues ces 3 familles? Comment vivent-elles depuis 10 jours, depuis leur arrivée au Vatican? Bonjour Antoine-Marie Izoard.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant d'RFI au Vatican. L'image a évidemment fait le tour du monde. Le pape François revenant d'un camp d'accueil sur l'île grecque de Lesbos avec à bord 12 réfugiés syriens, 6 mineurs comme le rappelait Djima. On a beaucoup parlé dans un premier temps, Antoine-Marie Izoard, d'un tirage au sort qui avait été organisé pour sélectionner ces familles. Finalement, tout cela n'était qu'une rumeur.
Ouais, c'est complètement une rumeur, effectivement. On a beaucoup parlé, vous le dites, de cet événement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pape a marqué les esprits, qu'il a réussi son coup, au moins pour l'exemple. L'idée, elle a germé dans l'esprit de l'un de ses proches collaborateurs, et le pape a accepté tout de suite. C'est ce qu'il nous a confié sur le chemin du retour. Quelques jours avant sa visite à Lesbos, c'est la communauté catholique de Sant'Egidio, qui est bien connue, Juan, pour ses méditations pour la paix en Afrique, ou reconnue aussi dans l'accueil des réfugiés, qui a participé au choix de ces réfugiés, avec des volontaires de Sant'Egidio, des représentants du Vatican et puis des autorités grecques, se sont rendus dans un camp, le camp de Kara Tepe. Ça n'est pas le camp que le pape a visité à Lesbos. Et le Vatican a choisi de privilégier des familles et a tenu à choisir surtout des réfugiés enregistrés en Grèce avant le 20 mars. Vous savez que c'est la date d'entrée en vigueur de l'accord assez contesté entre la Turquie et la Grèce, qui date à compter de laquelle les migrants qui n'ont pas obtenu l'asile ou qui n'ont pas fait de demande doivent être rapatriés en Turquie. Ouais. Et alors parce que les chrétiens ont souvent fui plutôt de leur région envahie par Daesh, les réfugiés musulmans sont actuellement plus nombreux sur ces routes des migrants. Et je le dis parce qu'il y a eu une petite polémique parfois même dans les milieux catholiques. Mmh. De fait, ce sont 3 familles musulmanes qui sont revenues avec le pape François et qui vont bientôt rejoindre, il faut le dire, 2 familles chrétiennes hébergées par le Vatican depuis quelques mois.
Et parmi les autres critères de sélection, précisons qu'il fallait que ces familles aient des papiers d'identité en règle et qu'elles soient dans des conditions particulièrement vulnérables. Hein, c'est ce que soulignait la communauté catholique Sant'Egidio qui s'est donc occupée effectivement de mettre en place tout ce dispositif pour accueillir accueillir ces trois familles syriennes, ces 12 réfugiés syriens. Avez-vous de leurs nouvelles, Antoine-Marie Zohar? Déjà, il faut être précis, ces familles ne vivent pas au sein même du Vatican.
Alors, je vais vous expliquer tout ça, mais je cueille une petite réflexion que vous avez faite quand vous avez parlé des papiers en règle. C'est un terme qui a été utilisé par le pape François dans l'avion du retour, effectivement. C'était une formule du pape pour dire diplomatiquement, grosso modo, cela... sont arrivés avant le 20 mars et donc on pouvait les rapatrier. Pour vous répondre plus directement et répondre à votre auditeur, c'est la communauté Sant'Egidio qui se charge en ce moment de l'accueil de ces familles avec le soutien financier du pape et du Vatican. On l'a dit, il y a 6 adultes, 6 enfants. Ils prennent actuellement des cours dans une école de langue de civilisation italienne tenue par Sant'Egidio au cœur de Rome dans le quartier du Trastevere. Ils ont déposé une demande d'asile en Italie et d'ici peu, ils devraient être installés à Rome dans des logements qui appartiennent au Vatican. Et puis si vous me le permettez, j'ajouterais ce que m'a confié Nour, que j'ai rencontré à son arrivée à Rome, une des réfugiées arrivées avec le pape. Ce qu'a fait le pape François, m'a-t-elle dit, aucun religieux musulman ne l'a fait, ils n'ont pas ressenti nos souffrances, aucun président des pays du Golfe, Dieu sait s'ils ont de l'argent et les moyens pour nous accueillir, ne l'a fait.
Et précisons également que les enfants, au total ils sont 6, ils ont entre 2 et 17 ans, les enfants seront scolarisés dès la rentrée prochaine bien évidemment. Djima, on a répondu à vos questions?
Oui, Juan Gomez, c'est bon.
Eh bien, on remercie évidemment Antoine-Marie Zohar, notre correspondant au Vatican, d'avoir été avec nous ce matin. 33 9 693 693 70. Caldor nous appelle de N'Djamena, au Tchad. Bonjour Caldor.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, quelles sont vos questions?
Effectivement Juan, d'appel au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 500 migrants seraient morts noyés en Méditerranée pour atteindre l'Europe. Moi, je voudrais savoir pourquoi les autorités maritimes tardent-elles à confirmer le naufrage. Est-ce une nouvelle voie de migration?
Alors, pourquoi tarde-t-elle effectivement à confirmer? C'est une excellente question que vous posez, Caldor. C'est vrai que la semaine dernière, de nombreux médias, y compris nous, avons relayé cette information du Haut Commissariat pour les réfugiés. Près de 500 personnes auraient péri dans un naufrage en Méditerranée. Céline Schmitt est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France. Vous avez tiré la sonnette d'alerte, il y a maintenant une dizaine de jours. De quelles informations vous disposez exactement, puisque pour l'instant, ce naufrage de 500 personnes n'a toujours pas été confirmé?
Oui, effectivement. En général, se passe, c'est que les gardes-côtes lancent des opérations de sauvetage en mer en réponse à des appels de détresse. Dans ce cas particulier, il semblerait qu'il n'y a pas eu d'appel de détresse, et c'est lorsque les familles ont commencé à dire que des membres de leur famille avaient disparu, qu'il y a commencé à avoir des rapports des médias sur ce sujet, et que nous, HCR, on a contacté les gardes-côtes en Italie, mais également en Grèce et en Égypte, pour avoir plus d'informations. Ils n'avaient pas d'informations, mais il y a eu 41 survivants de ce naufrage, et à leur arrivée en Grèce, donc ils ont été secourus par un navire, à leur arrivée en Grèce, nos équipes sur place ont pu leur parler, comme on le fait en général, en fait, pour donner information sur leurs droits. Et lors de ces entretiens, les histoires, les témoignages des 41 personnes ont confirmé, en fait, le naufrage. Ils ont parlé de plusieurs centaines de personnes sur le bateau sur lequel ils se trouvaient, et plusieurs centaines de personnes aussi sur un autre bateau plus grand. Et c'est donc suite à cela que nous avons communiquer cette information que nous avons eue des survivants. Et ce qu'il faudrait maintenant, c'est une enquête maritime pour déterminer ce qui s'est passé, pour avoir plus de précision sur ce qui s'est passé.
À ce jour, l'Agence européenne de surveillance des frontières, donc Frontex, la mission militaire de surveillance en mer, la mission SOFIA, affirme n'avoir aucun élément permettant de retracer un tel drame. On ne retrouve aucune trace de ce naufrage.
Actuellement, il n'y a pas d'éléments, et c'est pour ça en fait qu'il serait important qu'il y ait une enquête pour déterminer ce qu'il s'est passé, parce que les témoignages des 41 survivants se recoupent et donnent tous la même information.
Ouais, c'est important de préciser, effectivement, parce qu'on pourrait avoir des doutes sur la réalité de ces témoignages, et effectivement, ces 41 personnes que vous, HCR, vous avez pu rencontrer, avec qui vous avez pu discuter, les 41 personnes racontent exactement la même histoire, même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation, puisque les 41 rescapés ont dit avoir dérivé en mer pendant plusieurs jours. Là aussi, on ne sait pas exactement, 2 jours, 3 jours, peut-être plus, peut-être moins. On a peu d'informations. Notre auditeur, Caldor, nous demandait si le trajet emprunté par ces réfugiés signifiait qu'il y avait une nouvelle voie d'immigration sur ce trajet, puisque c'est important de préciser quand même que les réfugiés sont partis de Tobrouk, en Libye, en direction l'Italie, et depuis plusieurs mois, on parle effectivement de cette nouvelle route qui a comme point de départ l'ouest de Tripoli. Tout cela est nouveau.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'année dernière, il y a eu plus de 150 000 personnes qui sont arrivées en Italie, donc qui ont emprunté cette route. Ce qu'on a constaté cette année, au mois de mars notamment, c'est effectivement qu'il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées au mois de mars. Mais à nouveau en avril, on voit que les chiffres sont à peu près équivalents aux chiffres du mois d'avril 2015. Et donc pour l'instant, sur l'année 2016, il y aurait une augmentation d'environ 10% de personnes qui arriveraient en Italie. La nationalité de ces personnes ne change pas beaucoup. Il s'agit principalement de personnes qui viennent du Nigeria, de pays d'Afrique de l'Ouest, d'autres pays d'Afrique subsaharienne.
Merci beaucoup Cécile Schmitt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du HCR en France. 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous l'avons peut-être, vous l'avez peut-être entendu à l'instant, elle vient de tousser, mais ce sont les aléas du direct. Claire Fage qui s'installe dans ce studio. Bonjour Claire.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre, vous présenter tous les matins la chronique des matières premières sur l'antenne d'RFI, chronique à écouter et réécouter à tout moment, évidemment, sur notre site internet. On vous a demandé de venir. On a reçu une question concernant la Chine qui vient de créer son propre référencement du cours de l'or, suffisamment important pour qu'on en parle ce matin et pour que notre auditeur nous appelle de Canton. Il est en Chine. Bonjour Jocelyn.
Oui, bonjour Juan, bonjour les auditeurs de RFI.
Merci de nous écouter sur internet à Canton. On vous écoute.
Oui, d'accord. Selon les informations récentes, la Chine vient de créer son propre cours de l'or en yuan. Donc, ceci dit, dans quel intérêt la Chine crée-t-elle son propre cours de référence de l'or? Et en quoi le cours de l'or en Chine diffère-t-il du cours de l'or actuel, c'est-à-dire celui de l'Europe?
Oui, effectivement. Depuis la semaine dernière, Claire Fage, la bourse de Shanghai donne 2 fois par jour le prix du gramme de métal jaune en yuan, donc la monnaie chinoise. Faut savoir que la Chine est quand même le premier consommateur d'or au monde. Pourquoi la Chine a-t-elle pris une telle initiative, une telle décision, alors que depuis quasiment un siècle, si mes chiffres sont bons, mes informations sont bonnes, tout se passe à Londres. Londres est la place de référence mondiale dès qu'il s'agit de l'or.
Oui, ben c'est d'abord l'affirmation du poids de la Chine sur ce marché de l'or. C'est le premier producteur d'or, le premier importateur et, vous l'avez dit, le premier consommateur. 985 tonnes de métal jaune en 2015, c'est un quart de la demande mondiale, plus que la consommation de l'Inde qui adore les bijoux en or, vous le savez, désormais. Donc c'est la vogue des bijoux chez les particuliers, des pièces, des lingots, des investissements papier adossés à l'or en Chine. La banque centrale chinoise achète aussi beaucoup d'or pour équilibrer ses avoirs en devise. C'est un moment de défiance aussi vis-à-vis de ce fameux fixing londonien qui existe depuis 1919 mais qui est accusé de manipulation. Le cours de l'or était fixé à l'issue d'une conversation entre une poignée de banquiers 2 fois par jour. Aujourd'hui, c'est réformé, mais c'est très récent. C'est une plateforme électronique.
Rien ne dit que la bourse de l'or à Shanghai n'est pas à l'abri de manipulation.
Oui, c'est surtout à l'échelle d'un pays comme la Chine, 1 milliard de Chinois, et puis que c'est un petit peu le même fonctionnement que le fixing de Londres, mais la Chine a voulu convier deux banques étrangères, une espèce de caution, hein, parmi ces 18 nouveaux opérateurs qui fixeront donc le prix chinois de l'or.
Le prix donc en yuan, alors que jusqu'à présent le prix de référence de l'or était exprimé en dollars.
Alors c'est peut-être la clé principale de cette création d'un nouveau référencement en Chine. Le prix de l'or en yuan, c'est inversement pour lier le yuan à l'or. Parce que c'est interdit d'adosser une monnaie à l'or désormais. L'Arabie Saoudite et la Libye ont essayé de le faire dans le passé. Le FMI a dit stop. Les derniers à l'avoir fait, c'était les États-Unis dans les années 30, quand le dollar était très faible et que l'or partait en frégate vers la France. J'en ai discuté avec le fondateur de la plateforme en ligne de commerce des métaux au coffre.com. Il rappelait que depuis 1945, effectivement, l'étalon des monnaies, ce n'était plus l'or, mais le dollar. Or, le dollar est affaibli. La Chine détient des quantités de bons américains. Lier la monnaie chinoise à l'or, c'est une espèce de caution pour la Chine. Elle pourrait se débarrasser de la dette américaine, renforcer la crédibilité du yuan, qui n'est pas tout à fait convertible encore, et puis réclamer avec plus d'autorité au FMI l'intégration du yuan parmi les grandes monnaies internationales.
Eh bien, on a tout compris. Merci Claire Fage d'être venue. Jocelyn, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bon début de soirée à Canton en Chine, et surtout restez-nous fidèles. Il nous reste encore 4 minutes, le temps de prendre une dernière question. Souleymane, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Sénégal et vous avez une question concernant la lutte contre le paludisme. C'était d'ailleurs lundi la journée mondiale contre ce fléau qui, je le rappelle, a provoqué l'année dernière la mort de 438 000 personnes à travers le monde et notamment principalement en Afrique.
Oui, effectivement Juan. La semaine dernière, l'OMS a fait une annonce selon laquelle le paludisme est éradiqué en Europe, en Asie du Centre et au Caucase. Comment est-on parvenu à éradiquer le paludisme dans ces zones et peut-on envisager les mêmes méthodes dans d'autres continents et notamment en Afrique?
Bonjour Marc Tellier.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur du Centre national de référence du paludisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Information intéressante, effectivement, comme le rappelait Souleymane à l'instant. L'OMS a confirmé l'élimination du paludisme en Europe et en Asie centrale. Comment est-on parvenu à cette éradication?
Alors, cette éradication, c'est la suite logique d'une lutte qui a été renforcée depuis les années 2000 avec beaucoup plus de financement vers le paludisme et notamment des méthodes de protection mécanique, et j'insiste sur les moustiquaires, notamment les moustiquaires imprégnés qui ont la plus grande efficacité pour la réduction du poids du paludisme, le traitement contre les insectes vecteurs, donc avec des épandages d'insecticides, et puis des médicaments plus efficaces, qui sont efficaces plus rapidement, et c'est notamment des associations médicamenteuses avec des dérivés d'artémisinine qui sont très efficaces sur le parasite.
Ouais. Faut préciser que le paludisme avait déjà disparu d'Europe au milieu des années 70, puis dans les années 90, le parasite a ressurgi. Ce scénario ne risque plus de se reproduire.
Alors il y a toujours un risque que ça se reproduise, en fait l'équilibre est très fragile. Alors quand on parle d'élimination du paludisme, il faut que dans une région ou un pays, c'est ce qui est fait actuellement, on considère les pays, dans un pays il y ait plus de 4 paludismes autochtones, donc avec une transmission locale pendant 3 années. Et ça veut dire qu'après, donc l'OMS peut établir une certification d'élimination du paludisme. Et puis après, il y a une surveillance renforcée pour éviter que le paludisme se réinstalle, puisque les conditions de sa transmission sont en général toujours présentes. Oui. On arrive à éliminer le paludisme, et les vecteurs sont là, et ça peut redémarrer, comme ça a été le cas en Europe récemment, en Grèce.
Ouais. Marc Tellier, il nous reste 45 secondes pour répondre à la dernière question de Souleymane. Peut-on envisager les mêmes méthodes utilisées pour éradiquer le paludisme en Europe, sur le continent africain?
Oui, mais de manière beaucoup plus délicate et difficile, puisque la transmission est beaucoup plus efficace en Afrique. Le réservoir de parasites est beaucoup plus large, beaucoup plus divers, avec une diversité génétique importante. Donc ces méthodes sont efficaces, elles ont prouvé leur efficacité, mais il va falloir les mettre en place de manière durable et de manière intense, sans doute en y ajoutant d'autres méthodes pour diminuer le réservoir du paludisme. Et on peut faire référence à des vaccins actuels ou en développement.
Ouais, merci d'avoir été avec nous, Marc Tellier. Je sais que vous aviez un agenda chargé ce matin, co-directeur du Centre national de référence du paludisme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'autres questions à la rédaction demain. Restez évidemment à l'écoute d'RFI, dans un instant le journal, et puis dans 10 minutes, notre débat du jour consacré à la crise politique qui déchire, qui secoue le Burundi depuis un an.
Priorité santé.